Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Ça y est, l'innovation attendue par beaucoup de fans est enfin arrivée. Elle est puissante, elle est originale, elle est chère. La Freebox Ultra est maintenant disponible. Ah oui, il y a aussi le Vision Pro, mais seulement aux États-Unis. On va discuter de ces deux nouveaux produits avec Christophe. Dans le reste de l'actu, on va analyser les derniers résultats financiers d'Apple et voir pourquoi les concurrents d'Apple sont très mécontents de son plan d'ouverture de l'iPhone en Europe. Nous sommes le samedi 3 février, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. On a assisté cette semaine à deux lancements importants de produits, un franco-français avec la Freebox Ultra et un américano-américain pour l'instant, le Vision Pro. Salut Christophe, ça va ?
Salut Stéphane, bonjour à tous. Oui, ça va très bien, une semaine riche en nouveautés encore.
Ouais, t'es pas parti aux États-Unis chercher un Vision Pro ?
Non, j'écris à quelqu'un de connu pour avoir la fibre optique chez moi, ça m'occupe un petit peu en ce moment.
On va commencer par faire un point sur les résultats financiers d'Apple. Les résultats qui portent sur le dernier trimestre 2023, autrement dit la période cruciale de Noël. Alors le chiffre d'affaires progresse légèrement de manière globale, mais il y a des disparités assez fortes selon les activités. D'abord, on peut noter que le chiffre d'affaires augmente de 2% à 119 milliards de dollars, tandis que les bénéfices progressent, eux, beaucoup plus, avec une hausse de 13%. Comment c'est possible ça ?
Ah, mais ça c'est une vieille stratégie d'Apple, et c'est effectivement un petit peu contre-intuitif. Hein. Quand les temps sont difficiles sur le plan économique, on se dit « oh ben une société va chercher à baisser ses prix, à être donc agressive afin de vendre un petit peu plus ». Eh ben Apple a toujours fait le contraire. Quand les temps sont durs, elle augmente le prix de ses produits pour maintenir, voire augmenter ses marges, chose qu'elle a parfaitement réussi à faire ce trimestre. Après, bon, il ne faut pas se le cacher, ce sont quand même des résultats très très moyens dans l'ensemble. Alors bon, c'est toujours bizarre de dire des résultats très moyens lorsqu'on réalise un chiffre d'affaires de 119 milliards de dollars, mais voilà, chacun a ses soucis, voilà. Hein, c'est, voilà, Apple a malgré tout, ce qui ressort de ses résultats, c'est qu'elle a quand même un problème. Ce problème, ça s'appelle la Chine, où ses ventes sont en recul de 13%. La baisse est un petit peu moins forte si l'on prend en compte les variations du taux de change. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un an, la Chine était complètement à l'arrêt à cause du Covid. Bref, c'est pas très très rassurant ce qui se passe en Chine pour Apple. Et c'est ce qui inquiète énormément les marchés financiers.
On va rentrer un petit peu dans le détail. Alors pour l'iPhone, ça donne quoi les résultats de la fin d'année 2023 ?
Alors, plus 6% avec un chiffre d'affaires de 69 milliards de dollars. Alors, c'est un chiffre qui n'est pas évident à analyser pour deux raisons. La première, c'est que le premier trimestre 2024, donc qui correspond aux trois derniers mois de l'année, il a fait pour Apple 13 semaines, soit une semaine de moins que le T1 2023.
Ah oui.
Donc, si l'on regarde par ce biais, c'est plutôt une bonne performance parce que donc sur une plus courte période, elle a vendu davantage. Par contre, si on se rappelle que l'année dernière, il était quasiment impossible de mettre la main sur un iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max en décembre à cause des problèmes de production en Chine, justement, là, on se dit que c'est un petit peu moins glorieux. Mmh. Alors, l'heure de vérité, j'ai envie de dire, concernant le succès de cet iPhone 15 et iPhone 15 Pro, ce sera sans doute pour le trimestre en cours, qui pourrait être justement un peu plus difficile pour Apple, car l'année dernière, sur les trois premiers mois de l'année, on avait assisté à un petit phénomène de rattrapage qu'Apple n'aura donc pas entre janvier et mars. Donc, à suivre.
Ouais. Du côté de l'iPad, la dégringolade continue, mais ce n'est pas forcément une surprise.
Non, mais c'est, oui, moins 25%, 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Bon, bah oui, hein, comme tu le dis, pas de miracle. La gamme n'a pas été mise à jour de l'année, ouais. Donc il fallait pas s'attendre des miracles. Ce ne sont pas les changements apportés à iPadOS qui ont poussé les... Voilà. Donc maintenant, la vraie question est de savoir si la nouvelle gamme qui sera présentée au printemps, si elle sera capable de relancer la tablette d'Apple durablement ou non. Et je dois le dire, j'ai des doutes.
Du côté du Mac, c'est stable. Et d'ailleurs, bah, maintenant, le Mac a un chiffre d'affaires supérieur à l'iPad.
Oui, alors les deux se passent leur temps un petit peu à croiser leurs courbes en fonction des états de santé de l'un et de l'autre. Pour le Mac, je pense qu'il faut aussi, malgré tout, voir le verre plutôt à moitié vide. On va dire que le MacBook Pro M3 a permis de limiter la casse, pas plus. Un chiffre d'affaires donc de 7,8 milliards de dollars en hausse de 0,6%. C'est un peu mieux que l'année dernière à la même époque, mais il y a par exemple 2 ans, Apple a été sur un chiffre d'affaires de l'ordre de plus de 10 milliards de dollars. Je pense que Apple s'en est sorti parce que le MacBook Pro 13 est vendu cher, voire très cher, hein, surtout avec le pivotement de la gamme MacBook Pro qui commence désormais à 2000 euros et non plus à 1500 comme avant. Et je ne suis pas certain que cette gamme a eu un franc succès, car lors de son lancement, on nous avait promis des problèmes de pénurie, et il n'y a jamais eu de problème de pénurie sur cette gamme-là. Donc voilà, à suivre également. Évidemment, ceci dit, le Mac, on va dire que je pense qu'à court et moyen terme, cela pourrait bien se passer, car on peut potentiellement se dire que les MacBook Air M3... peuvent connaître un joli succès.
Et l'activité qui progresse le plus, ben, comme souvent, c'est les services.
Oui, en effet, plus 11% à 23,1 milliards de dollars. Mais paradoxalement, c'est peut-être également l'activité d'Apple la plus fragile. Elle est attaquée de toutes parts, entre la mise en place du DMA en Europe, qui pourrait quand même avoir des conséquences tôt ou tard sur le chiffre d'affaires généré par l'App Store, et l'accord avec Google sur les moteurs de recherche, qui est le moteur de recherche par défaut dans Safari. Et là aussi, cet accord est scruté de très très près par de nombreux régulateurs. Finalement, la branche service d'Apple a peut-être fini de manger son pain blanc.
Au niveau du DMA, les dirigeants ont dit que l'Europe représentait seulement 7% du chiffre d'affaires de l'App Store. C'était une manière de dire que bon, bah, c'est pas si grave que ça si on doit ouvrir l'App Store en Europe.
Ils ont sans doute tout à fait raison, mais le risque d'Apple à travers le DMA, c'est que ça fasse tache d'huile.
Oui.
Et le vrai souci, c'est
ça,
le problème d'Apple, c'est un peu... Enfin, elle s'en était félicitée pour la RGPD, elle l'avait étendue au monde entier, mais ce qu'elle peut craindre, c'est que le DMA soit étendu à court ou à moyen ou à long terme au monde entier. Je crois qu'il y a le Japon notamment qui regarde ça de très près et qui veut mettre en place une législation. Alors, je ne sais pas si c'est identique ou similaire, mais ça pourrait arriver.
Absolument, ouais. On va passer donc au premier lancement de produit de la semaine. C'était mardi. Free présentait la Freebox Ultra. C'était une nouvelle offre haut de gamme qui se démarque par deux aspects. Alors d'abord, il y a la vitesse de la connexion. Les débits de la fibre sont de 8 gigabits par seconde dans les deux sens. La Delta avait déjà du 8 gigabits, mais c'était seulement en téléchargement descendant. Là, on a aussi du 8 gigabits en upload. Et pour bien profiter de cette vitesse, la Freebox Ultra prend en charge le Wi-Fi 7. C'est la dernière norme en date, et c'est même la première box compatible Wi-Fi 7 sur le marché français, et apparemment d'après Free, même au monde. Le second point important, c'est l'offre de contenu. La Freebox Ultra inclut plein de services, donc il y a Disney+, Netflix, Amazon Prime, Universal Plus et même la chaîne Canal Plus en direct. Et tout ça, Free le vend 50 euros par mois la première année, puis 60 euros. C'est 10 euros de plus que l'ancienne offre Freebox Delta. Est-ce qu'elle t'intéresse, toi, cette nouvelle Freebox Ultra, Christophe ?
Disons qu'au final, j'aime assez l'idée de cette solution complète tout en un. Ton budget Internet, c'est 50 euros, puis 60 euros par mois, et après, c'est fini, il n'y a rien d'autre à payer. Je pense que ça peut intéresser des gens. Et justement, l'offre de contenu de Free, donc de proposer un sorte de panachage de Netflix, Disney+, Amazon Prime et Universal+, enfin, je ne comprends pas pourquoi Apple n'a pas fait ça. Enfin, c'est exactement ce que devrait TV+, offrir le meilleur des services de streaming. Donc ça, c'est un petit peu dommage qu'Apple n'ait pas fait ça.
Après, faut rappeler quand même pour Netflix et Disney+, c'est les offres standards avec de la pub. Donc si tu veux de la 4K, si tu veux plus d'écran, bon, faut quand même rajouter un petit peu au bout, quoi.
Oui, tout à fait, tout à fait. En ce qui concerne Internet, il y a toujours deux approches bien différentes, et ça, on le voit au sein de la rédaction. Il y a ceux qui ne voudraient rien avoir, juste un modem et encore, et puis après, je m'occupe du reste. Et puis, y a ceux qui veulent une solution tout en un, et là, il faut reconnaître que cette Freebox Ultra semble particulièrement intéressante et complète. Déjà, c'est effectivement, comme tu disais, la première box compatible Wi-Fi 7. À mon avis, il faudra attendre quelques mois avant de voir un appareil Apple compatible avec cette norme. Et oui, voilà, il est loin le temps où les box Internet avaient un Wi-Fi qui dépassait à peine une pièce. Là, enfin, si la réalisation est à la hauteur, ça semble être un package tout à fait intéressant.
Oui, parce que je ne l'ai pas signalé, mais il y a aussi un répéteur Wi-Fi 7 qui est inclus. Le lancement de la Freebox Ultra a été aussi l'occasion pour Xavier Niel de donner quelques explications sur ses relations avec Apple. Alors, autant les deux boîtes s'entendent parfois très bien sur certains sujets, autant c'est plus compliqué pour d'autres.
Oui. Alors, on peut aimer ou ne pas aimer Xavier Niel, on peut toutefois lui reconnaître une grande qualité, c'est de faire assez peu de langue de bois. Il a le mérite de dire les choses clairement. Alors, il s'est exprimé sur un certain nombre de sujets. Le premier, ça a été le SIM qui met un temps fou à arriver chez Free Mobile. Et là, bon, au moins, il a le mérite d'être cash. Hein. Voilà, comme tous les opérateurs, il n'aime pas le SIM. Il estime que ça fragilise le lien entre le client et l'opérateur. Alors, de son point de vue, enfin, on peut comprendre son point de vue en tant qu'opérateur. En tant que client, on en a peut-être un autre. Mais voilà, au moins, c'est dit de manière claire. Ce qui était aussi intéressant, c'était ses propos sur le SIM pour l'Apple Watch qui arrivera peut-être en 2025. Alors là aussi, ça paraît tout bête, on se dit, mais comment ça se fait que Free n'est pas en mesure d'offrir le SIM, c'est tout bête, enfin, ils en sont largement capables technologiquement, d'ailleurs Xavier Niel l'a confirmé. Par contre, effectivement, ce qui est compliqué, ce sont les lignes dans le contrat qu'Apple fait signer. Et en effet, on a appris qu'Apple impose à ses partenaires d'afficher des Apple Watch dans les boutiques. Mmh. Alors voilà, peut-être que Free n'a pas forcément beaucoup de place à accorder à l'Apple Watch dans ses magasins. Bon, en même temps, on peut aussi comprendre qu'Apple soit exigeante parce que, quelque part, elle fait une fleur aux opérateurs qui, pour la plupart d'entre eux, facturent 5 euros par mois le forfait pour Apple Watch. Et 5 euros le forfait pour Apple Watch, c'est vraiment de la marge brute pour les opérateurs. Ce n'est pas le trafic que fait une Apple Watch en 4G qui va augmenter la facture des opérateurs de téléphonie mobile, ça c'est certain.
Est-ce qu'Apple prend pas aussi une petite commission quand même sur la facture mensuelle de l'abonnement Apple Watch, je me demande.
Il aurait peut-être fallu lui poser la question. Peut-être bien, c'est pas impossible finalement. Voilà, c'est ça qui va peut-être pousser à ne proposer qu'une version sur l'Apple Watch Ultra. Hein. Il y a que des versions cellulaires, il n'y a pas de version uniquement Wi-Fi sur le modèle haut de gamme d'Apple Watch. Et puis après, il a laissé entendre dire que Free jouait un petit peu avec le Vision Pro. Mmh. Donc, je pense que c'est dans le cadre de leur application QQE, c'est ça, OQE, c'est ça qui est...
OQ, ouais, comme, c'est difficile à... On ne sait jamais comment le prononcer, ça.
Voilà. donc, voilà. Alors, ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Parce que d'après ce qu'on comprend d'Apple, la France ne semble pas être un marché prioritaire pour elle. En ce qui concerne Vision Pro, on a plutôt eu des échos laissant entendre que les premiers pays après les États-Unis à avoir le casque d'Apple, ce serait plutôt la Chine et éventuellement le Canada ou le Royaume-Uni.
On y vient, ouais. Donc l'autre lancement de produit important cette semaine, c'est évidemment le Vision Pro. Ça y est, le casque d'Apple est finalement disponible aux États-Unis depuis hier. Alors d'après les dernières rumeurs, Apple aurait vendu plus de 200 000 unités durant la période de précommande. La machine médiatique s'est logiquement emballée juste avant la sortie cette semaine. Apple a notamment annoncé qu'il y avait plus de 6 ans SAP optimisés au lancement. Et on a enfin vu Tim Cook avec un Vision Pro sur la tête. Incroyable mais vrai. Et puis les premiers tests des médias américains sont également parus. Et l'accueil a été plutôt tiède.
Oui, alors... Ça va être compliqué. Vivement qu'on reçoive notre exemplaire et qu'on puisse en parler quand même de ce Vision Pro. Oui. Parce que là, c'est vrai qu'on... Bon, alors moi, par expérience, j'ai toujours eu une certaine... J'accorde toujours une grande confiance à John Gruber, hein, qui est là quand même depuis assez longtemps. Et alors lui, il est clairement convaincu par le potentiel de l'informatique spatiale offerte par le Vision Pro. Alors, j'ai aussi aimé, dans une moindre mesure, la vidéo de la journaliste du Wall Street Journal, Yonah Stern, donc qui a vécu 24 heures avec un Vision Pro. Elle a eu vraiment une relation très forte avec cet objet. Donc, et pendant ce temps, elle a fait plein de choses avec. Elle est partie skier avec.
Ouais, c'est déconseillé par Apple, mais elle l'a fait.
Ouais, vous me laissez pas faire ça, parce que sinon, ça va mal, le Vision Pro va mal finir. Et d'ailleurs, elle a même cuisiné avec le Vision Pro. Ouais. Et là, d'ailleurs, on a vu que c'était un appareil qui pouvait être assez intéressant. Moi, quand je l'ai vu mettre des minuteurs au-dessus de chaque casserole,
ouais.
Puis on peut s'imaginer à droite mettre un petit peu la recette à suivre. Et là, c'est vraiment la cuisine de zéro. Là, on a vraiment l'impression
ouais,
clairement, ouais. Bon. Malgré tout, quand tu dis que si effectivement l'accueil était plutôt tiède, allez lire, c'est un appareil qui a l'air aussi magique que frustrant. Alors, Apple ouvre un nouveau chapitre, on verra bien ce que ça donne. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que Tim Cook, dans son interview dans Vanity Fair, il donne vraiment l'impression qu'Apple tâtonne, hein, de ne savoir pas vraiment où elle va aller. C'est ça qui m'inquiète un peu. Et malgré tout, quand on lit les premiers tests du Vision Pro, eh ben, on se rend compte que c'est pas comme l'iPhone. L'iPhone, quand il est sorti, il avait plein de défauts, mais voilà, il n'y avait rien d'insurmontable. Enfin, je veux dire, mettre une puce 3G dans l'iPhone... C'était une question d'attendre une ou deux générations de puces un peu plus performantes et c'était joué, quoi. Et on va dire, dès l'iPhone 3GS, voire l'iPhone 4, on avait quelque chose qui était mature. Là, le chemin paraît quand même un peu plus long, voire beaucoup plus long. Donc, c'est ce qu'on verra dans les semaines, les mois et les années à venir. Ceci dit, il y a quand même quelque chose que j'ai trouvé assez marrant chez les testeurs. Donc, ils ont utilisé leur Vision Pro et puis, ils sont revenus sur leur Mac. Et tout d'un coup, leur Mac leur paraissait un objet un petit peu rétrograde, un petit peu vieillot. Donc voilà, écoutez, on verra bien. On n'a plus qu'à attendre notre exemplaire et puis on vous dira.
On va terminer le tour de l'actu avec les réactions des grands éditeurs au plan d'Apple pour se conformer au DMA. Alors pour rappel, Apple a été contrainte d'annoncer toute une série de mesures pour ouvrir l'iPhone à la concurrence en Europe. Parmi elles, il y a la possibilité d'ouvrir des boutiques d'app alternatives, d'utiliser un autre moteur que WebKit pour les navigateurs web, ou encore d'utiliser un nouveau système de commission sur les ventes d'app. Alors ce sont a priori des changements qui vont dans le bon sens, sauf que quand on regarde dans le détail, l'ouverture est en fait très contrôlée. Spotify a tiré à boulet rouge sur le plan d'Apple. Le gros problème pour le service de streaming, c'est la nouvelle commission de 50 centimes sur chaque installation au-delà du premier million d'installations. Ça pourrait représenter des centaines de millions d'euros de frais annuels pour Spotify, qui estime que c'est, je cite, « de l'extorsion pure et simple ». Microsoft, de son côté, juge que le plan d'Apple est un pas dans la mauvaise direction, et Zuckerberg a déclaré aussi que les frais étaient tellement élevés qu'il ne pense pas que les développeurs vont adopter les nouveaux termes. Alors, j'ai l'impression qu'Apple a réussi son coup.
Ouais, c'est une façon de voir les choses. alors je vais être un petit peu vulgaire, mais cette affaire, c'est un gigantesque merdier. Franchement, alors tout le monde fait la tronche. Hein. Apple est clairement pas content de la situation, ses adversaires également, et je pense que l'Union européenne ne devrait pas tarder à manifester son mécontentement. Mais je pense que c'est lié, enfin tout ceci est lié, on va dire, au DMA dans de la manière dont il a été conçu. C'est une véritable usine à gaz et Apple a parfaitement su trouver les brèches. Ce DMA provoque des casse-têtes à tous les niveaux, à tout le monde, et même ceux à qui ça ne devrait pas poser des casse-têtes, j'ai envie de dire. On va prendre un exemple tout bête qui va être cher, c'est Firefox. Donc on pouvait se dire à la base, ah bah c'est super, Firefox va pouvoir utiliser son moteur de rendu dans son navigateur, c'est une super avancée, c'est chouette, c'est bien pour la concurrence et tout ce qu'on veut. Et voilà, on parlait même de la sécurité la semaine dernière en disant, bah oui, bon, c'est un autre moteur de rendez-vous, un autre moteur de rendu, donc c'est aussi potentiellement plus de failles de sécurité, mais avec l'App Store qui se met facilement, rapidement à jour, c'est peut-être un navigateur à la fin qui sera plus sécurisé que Safari. Mais voilà, la Fondation Mozilla dit oui, mais alors dans la situation actuelle, ça signifie qu'il me faut que je développe deux builds. Mmh. Une build pour l'Europe et une build pour le reste du monde. Et bon, c'est pas deux builds qui sont légèrement différentes avec deux, trois settings qui changent. C'est deux applications qui n'ont rien à voir, quasiment. Donc voilà, on est un petit peu... tout le monde est noyé, mais je pense que l'Europe s'est plantée en voulant ouvrir l'App Store à la concurrence. Elle aurait plutôt dû, à la place, dicter des règles très claires, sur la concurrence au sein d'une plateforme, comment ça doit fonctionner précisément. Par exemple, c'est ce qu'on a déjà vu avec les navigateurs web. Lorsque l'utilisateur lance Safari, donc à partir de la prochaine version d'iOS, il sera informé des différents navigateurs existants sur la plateforme et il pourra choisir un autre navigateur par défaut. On pourrait imaginer la même chose pour Apple Music, par exemple. D'ailleurs, c'est quand même très marrant, je trouve, d'entendre Spotify se plaindre alors que c'est l'acteur numéro un et de loin dans le domaine de la musique en ligne. Comme quoi, finalement, la prison dorée d'Apple n'est pas tellement un problème pour eux. Enfin bref, quand on voit tout ça, c'est sûr qu'on attend le mois prochain avec une certaine impatience, parce que ça va être sans doute un beau bazar. Effectivement, Apple a mis tellement de barrières que je suis pas certain que beaucoup, on va voir beaucoup de stores alternatifs ouvrir à court terme, même si on a entendu que Setapp est a priori décidé à y aller. Donc voilà, donc c'est courageux de leur part. Alors après, comment les choses vont évoluer? Bah, bien malin, celui qui peut voir dans la boule de cristal. Mais moi, je pense que la situation... je pense que le prochain épisode va se passer aux États-Unis. Voilà, on a cru comprendre en début d'année qu'on filait droit vers un méga procès contre Apple et ses mécanismes de verrouillage. Et je pense que ça pourra éventuellement faire avancer plus vite qu'on ne le croit certaines choses.
Mais est-ce que ce bazar en Europe dont tu parles, est-ce que c'est pas aussi quand même la faute d'Apple qui joue pas vraiment le jeu avec le DMA, qui essaye de trouver les failles un peu pour malgré tout empêcher quelques acteurs de lui faire de la vraie concurrence?
Alors, je te rappelle, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que l'activité service est de 23,1 milliards de dollars. Alors, même si ce n'est que 7%, paraît-il, des revenus de l'App Store qui sont concernés, je ne suis pas certain que ce soit quelque chose qui plaise véritablement à Apple. Voilà, bah, elle est dans son rôle de défendre un petit peu son beefsteak. Et puis après, ce qui est malheureux dans cette affaire, c'est que je sais pas. Évidemment, ils n'ont pas tort, Microsoft et Zuckerberg, hein, quand ils disent que le plan d'Apple forcément ne fait pas fondamentalement leurs affaires, mais je pense que comme n'importe qui dans le milieu des affaires, Apple a regardé très clairement le règlement de la DMA avec des avocats et elle a cherché des failles, et elle les a exploitées. Enfin, on a l'impression de regarder. Ça fait penser à la Formule 1 quand les différentes écuries regardent très précisément le règlement sur les monoplaces et regardent précisément ce qui n'est pas dit et cherchent les brèches pour gagner comme ça un ou deux ou trois dixièmes ou une seconde. Sauf que chez Apple, c'est pas des dixièmes qu'Apple cherche à gagner, mais quelques milliards à préserver.
On va voir comment ça évolue, puisque donc la Commission européenne aura aussi son mot à dire sur le plan d'Apple pour le DMA. Écoute, merci Christophe pour ce retour sur l'actu.
Bon week-end à tous.
Bon week-end à tous et à bientôt pour un prochain rendez-vous. Salut.